l'écoute de RFI, les 7h30 à Paris et à Agadez, 6h30 à Nouakchott. Le journal de Vincent Dublange est à la une. Vincent, des interrogations et un certain flou au Niger. Mais le bilan pourrait être très lourd après plusieurs attaques djihadistes.
Oui, trois attaques distinctes, semble-t-il, Andréane, ces derniers jours. À la télévision nationale, l'armée nigériane dément. Elle reconnaît tout de même que des soldats ont été enterrés au cimetière des Martyrs à Niamey hier. Des arrestations lors d'une opération de l'armée malienne mardi et des Wagner à la frontière Mauritanie-Mali. Mouvement de panique constaté dans la zone chez les habitants, on va vous expliquer. Un non-lieu définitif prononcé hier par la justice française dans l'affaire de Bicécéro. Ces accusations d'inaction contre l'armée française en 1994 au Rwanda. Et puis un conquérant infirme devenu roi, tel que raconté par la tradition orale, les griots ouest-africains. La figure mythique de Sundiata Keïta est au cœur d'un opéra mandingue en ce moment à Abidjan. Sacrée alchimie que l'on découvre dans le dossier de cette édition dans 10 minutes.
Des informations contradictoires sur plusieurs attaques djihadistes au Niger ces deux derniers jours, près de la frontière avec le Burkina Faso.
Le bulletin des opérations de l'armée nigérienne publié hier fait état de 10 soldats tués dans une attaque terroriste à Petel-Kolé, dans le sud-ouest du pays. Autre attaque dans la même zone, celle de Terra, dans le village précisément de Chatouman. C'était mardi, des sources locales parlent de 50 civils tués, de 90 soldats morts, ce qui est totalement démenti par les autorités de Niamey via la télévision nationale. Eva Massi.
Il n'y a pas eu d'affrontement entre djihadistes et soldats dans la zone frontalière de Terra, selon l'état-major du Niger, dont le démenti a été lu hier soir par la télévision nationale Télé Sahel.
Ces informations saugrenues font état de plusieurs morts dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité dans la zone de Terra, ce qui, bien évidemment, totalement faux.
Pourtant, des sources sécuritaires et médicales annonçaient à RFI dès hier que dans le village de Chatouman, une centaine de soldats nigériens sont morts dans des combats contre des djihadistes. Les affrontements ont eu lieu en plein milieu du marché bondé de cette localité de la préfecture de Terra. Selon les mêmes sources, une cinquantaine de civils sont morts lors de cette embuscade. Quelques heures après le démenti des autorités sur Télé Sahel hier soir, l'armée nigérienne annonçait une autre attaque survenue à Petel-Kolé dans l'ouest du Niger, toujours dans le département de Terra, près de la frontière avec le Burkina Faso. Bilan, selon le bulletin des opérations publié par l'armée et cité par l'AFP, 10 soldats tués et 7 autres blessés.
Eva Massi du service africain.
L'armée malienne et le groupe Wagner ont mené mardi une opération à la frontière avec la Mauritanie.
Opération au cours de laquelle au moins une quinzaine d'hommes ont été emmenés. Certains depuis ont été libérés. L'opération s'est déroulée précisément à l'Ardaf, près de Fassala, dans une zone où le délimité de la frontière Mali-Mauritanie est flou, y compris pour les habitants d'ailleurs. Aucune déclaration officielle à ce stade, ni du côté de Bamako, ni du côté de Nouakchott. De nombreuses sources locales s'indigne d'une nouvelle incursion de Wagner et de l'armée malienne en territoire mauritanien. Mais d'après nos informations, David Bachet, l'opération a bien eu lieu côté malien.
Plusieurs sources militaires mauritaniennes l'assurent. L'opération Wagner armée malienne a bien eu lieu du côté malien de la frontière, même si de nombreux Mauritaniens figurent parmi la quinzaine d'hommes au moins qui ont été arrêtés. Les témoignages locaux recueillis par RFI font également état d'au moins 4 voitures emportées et de boutiques saccagées par les hommes de Wagner. Le village de l'Ardaf se trouve sur une zone frontalière floue que Maliens et Mauritaniens traversent quotidiennement sans même en avoir conscience, expliquent certaines sources. Ni l'armée malienne, ni les sources officielles mauritaniennes sollicitées par RFI n'ont souhaité commenter. En avril dernier, une incursion avérée de Wagner et des Fama dans la même zone, mais sur le sol mauritanien, avait fait 3 Mauritaniens blessés, 4 autres avaient été arrêtés puis relâchés. En mars 2022, Nouakchott avait carrément dénoncé des crimes récurrents après plusieurs cas d'assassinat ou de disparition de citoyens mauritaniens à la frontière, ce que Bamako avait réfuté. Wagner et l'armée malienne mène régulièrement des opérations à la frontière mauritanienne qui sert de zone refuge pour les djihadistes du Jnim liés à Al-Qaïda et pour les rebelles indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad.
Et tous les Mauritaniens qui avaient été emmenés par les Wagner ont été libérés hier soir. Information confirmée à RFI de sources officielles mauritaniennes. Aucune précision pour les Maliens qui avaient été arrêtés. Charles Blégoudé demande au président Alassane Ouattara de l'amnistier à un peu moins d'un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'ancien leader étudiant a été acquitté par la Cour pénale internationale, bien sûr, mais il est toujours condamné par la justice de son pays. Il est donc inéligible D'où cette demande d'amnistie faite hier devant la presse à Abidjan au sortir d'une rencontre avec des responsables de la commission électorale indépendante ivoirienne. En France, après plusieurs procédures successives, la Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu général déjà rendu en octobre 2023 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française à Bicécéro au Rwanda en 1994. Dans cette affaire, trois associations, Survie, Ibuka et la Fédération internationale pour les droits humains, ainsi que des rescapés du massacre du génocide contre les Tutsis, accusaient l'opération Turquoise et la France de complicité de génocide pour avoir, selon eux, sciemment abandonné des civils Tutsis aux mains des tueurs Hutus en juin 1994. Lisa Fabian était hier à la sortie de l'audience à Paris.
L'enquête avait été rouverte en 2021 après un premier non-lieu suite à la publication du rapport de la commission présidée par l'historien Vincent Duclerc. Ce document mentionnait l'échec profond de la France lors des massacres de Bicécéro. Maître Pierre-Olivier Lambert est l'avocat de plusieurs hauts gradés français désormais hors de cause.
Les juridictions ont pris en compte justement les conclusions de ce rapport Duclerc et ont confirmé qu'il n'y avait aucune charge qui pouvait peser contre les militaires français. On peut être fier de ce que nos militaires ont accompli au Rwanda en 94. Absolument aucune charge ne pèse sur eux dorénavant.
Les parties civiles faisaient aussi appel contre le refus des juges de procéder à certains actes d'enquête qui auraient permis d'en savoir plus sur la chaîne de commandement française en plein génocide contre les Tutsis au Rwanda. Maître Olivier Fox, avocat de l'association Survie.
Les données réunies par cette commission d'historiens tendent à dire que les décisions ont été prises à Paris. On sait que Paris, c'est-à-dire l'état-major particulier du président de la République, l'état-major des armées, est informé en temps réel, dès le 27 juin, de ce qui se passe. Mais on n'a pas d'ordre descendant. Et quels ont été les ordres donnés? On n'a pas ces éléments au dossier.
L'association Survie a indiqué qu'elle poursuivait son combat judiciaire pour faire reconnaître les fautes de la France au Rwanda.
Lisa Fabian.
En République démocratique du Congo, le chef de l'État a prononcé son discours sur l'état de la nation.
Son premier depuis sa réélection il y a un an. Il a présenté un bilan économique flatteur. La RDC est un immense chantier, pays en mouvement. Le président vit dans un pays imaginaire, dit au contraire un opposant ce matin. Félix Tshisekedi a aussi accusé le Rwanda d'occuper des terres dans le nord Kivu, dans l'est du pays. Au Ghana, quatre jours après les élections générales et notamment la présidentielle, l'équipe chargée de mener la transition a été officiellement installée hier à Accra. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, qui achève son deuxième mandat, a reçu John Mahama, le président élu, hier matin. Les deux hommes affichent, Binta Diagne, une volonté de travailler ensemble.
Nana Akufo-Addo et John Mahama posent devant le drapeau du Ghana, poignée de main, puis ils s'engouffrent dans un bureau pour un tête-à-tête. Les deux hommes se connaissent déjà, ironise le président ghanéen.
Le président Mahama et moi, nous nous connaissons depuis 20 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'Assemblée nationale en 97 et depuis, nous sommes restés de très très bons amis.
Cet échange a donc été chaleureux et cordial. Le président sortant veut que le transfert d'autorité se passe bien.
C'était important de tenir cette réunion avec lui. D'abord pour le féliciter pour sa remarquable victoire, ensuite pour l'assurer de mon plein soutien pour le processus de transition, afin que son administration puisse démarrer dans les meilleures conditions.
Même enthousiasme exprimé par John Mahama, le président élu.
Le président m'a briefé sur les questions de sécurité intérieure et extérieure. Il a aussi fait un point sur la situation économique. Nous travaillerons ensemble dans l'intérêt du Ghana. Je pense qu'après cette période de transition, il sera nécessaire de maintenir un canal de communication.
La transition sera courte. John Mahama sera investi le 7 janvier prochain. Binta Diagne, Accra, RFI.
Pas de remise en liberté pour Boualem Sansal. La justice algérienne refuse le recours de l'écrivain franco-algérien. Il est détenu depuis mi-novembre pour atteinte à la sûreté de l'État. Boualem Sansal est donc maintenu en détention. Hier à Paris, lors d'une conférence de presse, son avocat en France, François Imbray, a annoncé qu'il ne peut pas se rendre en Algérie. Avec l'éditeur de Boualem Sansal, Antoine Gallimard, ils appellent à la mobilisation. On l'écoute.
Il me paraît très évident que Boualem fait à la fois les frais de sa liberté, peut-être d'une forme d'insouciance, mais aussi d'une relation franco-algérienne particulièrement dégradée. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi désastreuse que maintenant. À cet égard, il est très important que la mobilisation autour de son nom ne soit pas française ou franco-algérienne ou franco-marocco-algérienne, encore moins, mais qu'elle soit universelle. parce que l'arrestation d'un écrivain interpelle tous ceux qui, dans le monde, sont attachés à l'idée même de liberté. Et je lance, de ce point de vue, à cet égard, un appel à travers vous, ici, aux signataires, parmi eux beaucoup de prix Nobel du monde entier, mais plus généralement aux ministres de la Culture, aux intellectuels du monde entier, pour qu'ils expriment auprès des autorités algériennes les sentiments que leur inspire l'arrestation brutale, imprévue, inattendue, d'un écrivain de 80 ans.
Maître Françoise Imrel, avocat de Boualem Sansal, qui se donne, je cite, « quelques jours avant de saisir l'ONU pour dénoncer les entraves aux droits de la défense ».
Le décès d'un ancien journaliste de RFI.
Hugo Sada est mort hier à l'âge de 74 ans. L'ex-journaliste était passé donc par RFI, mais aussi par Jeune Afrique. Il avait ensuite œuvré à l'Organisation internationale de la francophonie. Il fut notamment l'un des proches collaborateurs du secrétaire général Abdou Diouf. Le portrait, les hommages à Hugo Sada à lire sur RFI.fr onglet Afrique.
C'est un personnage mythique qui monte cette semaine sur les planches à Abidjan.
En quelque sorte, il y monte via un acteur, bien sûr, le roi conquérant du XIIIe siècle, Sundiata Keïta, figure fondatrice mythique de l'empire mandingue en Afrique de l'Ouest. Il a inspiré déjà de nombreux artistes. On se souvient du morceau Sundiata de Tikenja Fakoli en 99 dans son album Cours d'Histoire. Et bien, c'est le long cours de cette histoire, cette épopée que l'opéra mandingue, produit et mis en scène par l'auteur-compositeur Abbas Zayn, entend magnifier. Marine Jadin s'est glissée pour nous dans les dernières répétitions.
Pour raconter Sundiata Keïta, nul n'est mieux placé que le comédien Cheikh Diakité qui joue le rôle titre.
Sundiata Keïta, c'est le fondateur de l'empire mandingue. En quelque sorte, c'est mon ancêtre. C'est un conquérant, il a la fougue, il a la rage de vaincre. Quand on dit Sundiata Keïta, tout le monde a une image de Sundiata Keïta dans sa tête. Donc moi, comment matérialiser cette image-là ?
Pendant deux heures, les comédiens reconstituent les scènes clés de l'épopée de Sundiata Keïta, avec des parties jouées, slamées, chantées et dansées. Le résultat forme ce qu'Abbas Zayn a choisi d'appeler un opéra mandingue, une alchimie périlleuse mais maîtrisée, espère le chef de chœur Guy Constant Assoukrou.
On va rentrer vraiment dans le style du terroir mandingue. La petite nuance, c'est que la chorale va chanter sur ce style-là, mais avec des voix plutôt lyriques.
Le fils de mon gars est né, il est là, le lion du Mandé, bienvenue Maridata.
Pendant ce temps-là, il y a les percussions qui sont en train de jouer, la kora, le balafon.
En tout, une centaine d'artistes seront présents sur scène. Une très grosse production se réjouit à Abbas Zayn qui promet un spectacle grandiose et pour lui, un rêve d'enfant qui se réalise.
Ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis gamin. C'est un film qui devient roi. C'est un vrai conte, une vraie légende. Ce que l'Afrique a apporté à l'histoire, en fait, et qu'on ignore ou qu'on fait semblant d'ignorer. Et je me suis dit qu'il faut en faire un spectacle.
Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et la figure de Sundiata Keïta est certes déjà connue et populaire chez les spectateurs ivoiriens. Son épopée est enseignée en Côte d'Ivoire dès l'école primaire. Il a laissé peu de traces archéologiques. Son histoire, en fait, a été transmise, bien sûr, par la voix orale, par les griots. Et elle n'a rien aujourd'hui perdu de sa force symbolique, explique le professeur d'histoire Chikuna Sissé. Il est maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est spécialiste des migrations et des civilisations mandingues.
Sundiata reste une figure mythique de l'histoire du Mandé. C'est clair qu'il y a beaucoup d'exagérations, mais la figure historique, elle a existé. Il est surtout connu par sa victoire sur Soumangourou Kanté en 1235, geste relaté par des historiens comme des hommes de lettres. Aux indépendances, les leaders de cette période avaient quand même besoin de cristalliser une conscience historique autour de figures mythiques. Les hommes ont toujours besoin d'ancêtres. Quand le présent fait mal, quand on a été colonisé, on a toujours besoin de répondre à la colonisation par de nouveaux imaginaires qui nous restituent dans un passé glorieux, un passé qui permet de nourrir justement la trame de la Renaissance.
Et ce dossier de Marine Janin, photo à l'appui, est à retrouver sur notre site rfi.fr. Je l'ai sous les yeux, je vous garantis, c'est vrai.
Merci Vincent Dublonge, à tout à l'heure.